Il est 12h30, passé de 30 secondes sur France Culture. C'est l'heure des informations avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Donald Trump, candidat naturel du Parti républicain pour la présidentielle de novembre. Il l'emporte dans l'Indiana. Son principal rival, le sénateur du Texas Ted Cruz, suspend sa campagne. Précision de Nadine Epstein, commentaire de François Durper. Dans la périphérie d'Alep, de violents combats continuent à opposer groupes rebelles et forces du régime syrien. Des discussions s'ouvrent à Berlin pour tenter d'établir le cessez-le-feu. Correspondance depuis Beyrouth avec Omar Waman. François Hollande est bien en campagne dans le cadre du colloque sur la gauche et le pouvoir organisé hier par la Fondation Jean Jaurès. Le chef de l'État a sonné la mobilisation de son camp. Commentaire avec Frédéric Seiss. Emmanuel Macron menace de légiférer sur la rémunération des grands patrons si le groupe Renault ne tire pas les conséquences du vote négatif des actionnaires sur la rémunération de Carlos Ghosn. Dossier suivi par Élise Thibault et Anne-Laure Chouin. Et puis les forces de l'ordre ont investi ce matin un lycée en travaux dans le nord-est de Paris pour évacuer les migrants qui l'occupent depuis maintenant deux semaines. Récit avec Catherine Dutu, l'invitée de la séquence interview, Françoise Verchère, présidente du comité des élus contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dans la dernière partie, Caroline ?
Nous serons sur la frontière entre la réalité et la fiction, les faits et la fiction, en compagnie de notre invitée, Françoise Lavocat, qui publie un ouvrage très important sur ce sujet.
Cette fois, la voie est donc libre pour Donald Trump. Nouvelle victoire hier dans l'Indiana pour l'homme d'affaires. 53% des voix républicaines contre 37% au sénateur du Texas. Ted Cruz qui annonce dans la foulée le cœur lourd qu'il suspend sa campagne, constatant que sa candidature n'est plus viable. Moins d'un an donc après son entrée fracassante dans la course à la Maison Blanche, le milliardaire américain de l'immobilier est devenu maintenant le candidat naturel du Parti républicain pour cette présidentielle de novembre, Nadine Epstein.
Le bulldozer Trump a tout rasé sur son chemin, excite tous ses concurrents républicains, sénateurs, gouverneurs, chefs d'entreprise. Toutes les figures de la droite américaine ont été balayées par celui qu'on prenait pour un bouffon au début des primaires et qui aujourd'hui s'est imposé comme le futur candidat républicain à la présidentielle. Car on ne voit pas comment Trump peut être inquiété dans son parti, quand bien même il n'atteindrait pas les 1237 délégués nécessaires à la convention de Cleveland fin juillet, encore que pour l'instant, le milliardaire empoche succès sur succès. Le dernier grand test sera le scrutin du 7 juin en Californie. Une convention ouverte républicaine remettrait en question la légitimité de Trump, mais quel homme serait alors propulsé, étant donné qu'il ne reste que John Kasich, qui n'a obtenu que 156 délégués et une seule victoire dans son état de l'Ohio. D'autant qu'après le triomphe d'hier, le président du parti républicain, Priebus, a appelé à l'unité autour de Trump. Globalement, le tout contre Trump n'a pas fonctionné. Certes, une partie des républicains, notamment des intellectuels, qui menacent de voter Hillary Clinton, misent encore sur une convention négociée. Persuadé que rien ne l'empêcha d'affronter Clinton en novembre, Donald Trump a lancé « nous allons gagner gros » et ce sera l'Amérique d'abord, fermer les guillemets. Quelques mots des démocrates pour terminer. Bernie Sanders résiste à Hillary Clinton en remportant la primaire d'hier et le sénateur du Vermont a promis de rester dans la course jusqu'à la convention de Philadelphie. Mathématiquement parlant, l'ex-secrétaire d'État n'est pas vraiment inquiété. Elle comptabilise 2217 délégués contre 1443 pour Sanders, alors que la majorité requise est de 2383.
Nadine Epstein, merci. Bonjour François Durper.
Bonjour.
Conseiller, donc consultant de cette édition pour ces élections américaines. Ce qui paraissait quand même invraisemblable, Nadine vient de le rappeler il y a seulement 6 mois, se produit. Donald Trump en lice pour la Maison Blanche, peut-être bientôt président des États-Unis. Comment est-ce qu'on peut prendre la mesure du processus en cours actuellement ?
Les analystes politiques n'avaient pas vu venir Trump, mais les électeurs, eux, savaient ce qui allait se passer. Cette nuit, dans l'Indiana, à sortie d'urne, on demandait aux républicains pourquoi ils avaient voté et ils ont dit à 59% parce qu'on voulait quelqu'un qui ne soit pas de l'establishment. Et ce chiffre de 59%, on veut un candidat hors establishment, c'est exactement le même que celui de la première élection dans l'Iowa il y a quelques mois. Donc ça veut dire que ce que les analystes politiques n'ont pas vu arriver, ils se sont dit ils vont pas le faire. Les électeurs, eux, eh bien, ça faisait des semaines qu'ils disaient, d'ailleurs ils disaient, même ceux qui n'avaient pas voté Trump, 9 sur 10 disaient, Trump, il y a 15 jours, sera le candidat. Et sur les plateaux télé, dans les radios, dans la presse écrite, on continuait à dire, est-ce qu'il sera le candidat? Les électeurs, eux, le savaient. Donc il y a ce décalage, qui est déjà une partie de la réponse, entre le monde réel, la démocratie réelle, et la démocratie telle qu'on l'analyse aux États-Unis comme dans les autres pays.
Oui, effectivement, ça peut faire penser à d'autres situations. Maintenant, establishment va peut-être prendre la main, si je puis dire, ou se rallier au train Trump, effectivement. Comment ça se présente pour lui? Est-ce qu'il va pouvoir, malgré tout, ressouder le Parti républicain, par exemple?
D'abord, l'unité du parti. L'unité du parti, effectivement, un républicain disait, si on ne monte pas dans le train Trump, eh bien, on ne monte pas du tout, et donc on ne va pas affronter Hillary Clinton. Ça, c'est un enjeu, de se dire comment Trump va présidentialiser son discours pour battre Hillary Clinton. Par les mathématiques,
Il a
les moyens de gagner cette élection. Juste un chiffre. Aujourd'hui, et c'est historique, 43% des Américains disent qu'ils sont indépendants, c'est-à-dire non inscrits. Ils sont ni démocrates, ni républicains. C'est ce ventre mou de la politique américaine, des centristes, des indépendants. Or, sur ces indépendants, eh bien, ils ont droit à deux candidats qui ne leur plaît pas. Parce que lorsqu'on regarde la cote de popularité de Trump chez les indépendants, c'est 19%. 67% disent qu'ils ont une image négative de Trump. Sauf que chez Hillary Clinton, c'est la même chose. Les indépendants disent 20% image positive d'Hillary Clinton, 62% image positive.
Qu'est-ce que vous tirez de ces chiffres?
Eh bien, que c'est une élection ouverte, qu'il y a, il va y avoir une guerre électorale pour conquérir le cœur de ces indépendants, et que cette élection n'est pas jouée d'avance. En tout cas, ceux qui disent que cette élection est jouée d'avance nous disaient il y a quelques mois, Donald Trump ne sera pas le candidat républicain.
Merci beaucoup, François Durpaire, d'avoir accepté notre invitation.
Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter d'établir le cessez-le-feu en Syrie, des discussions sont prévues aujourd'hui à Berlin. De violents combats ont continué à opposer durant la nuit des groupes rebelles aux forces du régime syrien dans la périphérie d'Alep.
Oui, depuis 2012, cette ville, deuxième ville de Syrie, cette ville d'Alep, divisée en deux par une ligne de séparation entre les parties qui sont contrôlées par le régime et celles entre les mains des rebelles. Et le régime, donc fort de ses récents succès militaires, tente maintenant de reprendre cette ville en encerclant notamment les rebelles. Analyse à Beyrouth de Marwa Mann.
Il n'est un secret pour personne au sein des chancelleries que Bachar el-Assad ne croit pas aux négociations avec l'opposition qu'il qualifie régulièrement de terroriste à la solde de l'Occident. Il apparaît également à la lumière de ces 5 dernières années de guerre civile que son objectif, passé celui de la survie de son régime, n'est autre que la reconquête de l'ensemble des territoires perdus et en priorité Alep. Bachar el-Assad en a fait la mère de toutes les batailles, son objectif absolu bien avant la reconquête de Raqqa, capitale du groupe État islamique en Syrie, que Barack Obama voudrait voir tomber avant la fin de son mandat. Mais l'agenda du régime de Damas est tout autre. Depuis bientôt 4 ans, il s'efforce de reconquérir les quartiers est de ce qui fut la capitale économique du pays, quartier contrôlé par les rebelles, pour ainsi faire la jonction avec les territoires situés à l'ouest d'Alep, tenus par les forces gouvernementales. Pour y parvenir, la stratégie militaire du régime de Damas consiste à encercler la ville et à couper l'approvisionnement en vivres et en armes en provenance de la Turquie voisine afin de parvenir à un siège total. Mais avant cela, le régime de Bachar el-Assad veut vider cette partie d'Alep de ses 250 000 habitants afin de parvenir à un face-à-face avec les rebelles et pour pousser la population à fuir et à rejoindre les camps de réfugiés le long de la frontière turque. Damas a donc décidé de relancer depuis le 22 avril une énième campagne de frappes aveugles et de bombardements ciblés sur les hôpitaux qui ont causé la mort de dizaines de personnes parmi les civils.
L'actualité en France, François Hollande paraît avoir franchi hier les derniers mètres qui le séparaient encore d'une entrée en campagne.
Oui, d'une campagne présidentielle, puisqu'on connaît d'ailleurs à l'instant les dates de ces prochaines présidentielles. Premier tour 23 avril, second tour le 7 mai 2017, donc l'an prochain. Hier au Théâtre du Rond-Point, dans le cadre d'un colloque sur la gauche et le pouvoir organisé par la Fondation Jean Jaurès, le chef de l'État en effet sonné la mobilisation dans son camp et François Hollande a emprunté notamment cette phrase à Jaurès, avançons sans regret, sans calcul, sans répit, sans savoir quelle récompense nous sera réservée. La récompense, elle ne sera pas dans l'histoire, la récompense, elle sera dans l'avenir. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour Antoine.
Il y a plus là peut-être qu'un programme, il y a tout un état d'esprit du président dorénavant candidat.
Oui, est-ce dû à l'accélération du temps politique lié au quinquennat? En tout cas, François Hollande a choisi de lever les doutes sur une future candidature près d'un an avant l'échéance. François Hollande, devant ce public acquis, celui de Terra Nova et de la Fondation Jean Jaurès, a retrouvé ses accents de candidat, critiquant tour à tour le libéralisme, idée du 19e siècle, le libre-échange, la nostalgie, mais aussi l'immobilisme et la gauche rentière des acquis du passé. Bref, en se plaçant comme le candidat du compromis, un mot qu'il a répété une quinzaine de fois. Au plus bas dans les sondages, miné par la débandade sur la déchéance de nationalité, la controverse sur la loi travail, le président a cherché à faire hier ce que fait tout bon candidat, d'abord ressouder son camp avant d'élargir. Il aura d'ailleurs à lutter contre le rejet lui-même de l'establishment qu'évoquait François Durper. Il y a cette antienne, ça va mieux, ce mouvement EO la gauche de Stéphane Le Foll, la belle alliance populaire de Jean-Christophe Cambadélis. Bref, il s'agit avant l'été de faire passer l'idée que ce quinquennat, oui, fut bien de gauche. Hier d'ailleurs, François Hollande a dit ce qu'il espérait pour lui, tout en parlant de Léon Blum, très critiqué, je cite, pendant l'exercice du pouvoir, avant d'être salué par l'histoire. Message d'autant plus important à faire passer que la primaire à droite, à l'automne, s'annonce comme une sorte de concours Lépine de propositions économiquement très libérales. La primaire à gauche, elle, en est toujours à l'état d'hypothèse peu probable, aucun des protagonistes potentiels n'étant d'accord sur les modalités. François Hollande annoncera ensuite sa candidature, vraiment officiellement en décembre, au moment même où le PS donnera de son côté l'investiture à ses candidats pour les législatives, histoire de décourager les éventuels dissidents. Alors en petit comité, François Hollande tempère tout de même l'optimisme presque surréel dont il fait souvent preuve. Il note que tous les présidents sous la Ve République sortants ont été battus, sauf cohabitation. Conclusion de l'intéressé, il va falloir être original.
Merci beaucoup. Frédéric Seyss, Françoise Lavocat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre invité dans la dernière partie pour un livre important qui s'appelle « Faits et fictions pour une frontière ». On va évidemment pas en parler dans le journal, on l'évoquera tout à l'heure. Mais quand même, vous évoquez beaucoup, vous parlez beaucoup du storytelling en politique aussi, sur cette séparation entre fiction et réalité. Pour François Hollande, vous avez des propositions pour raconter une histoire pour 2017?
Écoutez, non,
qu'il ne soit pas de la fiction.
Je n'en ai pas parce que je pense que François Hollande est justement très bon dans la rhétorique. Il n'est pas mauvais du tout dans le storytelling. Et la preuve que ça ne marche pas très bien me laisse à penser que le storytelling n'est pas tout en politique.
Et peut-être effectivement est en train de perdre en tout cas ce qu'il avait pu avoir. Peut-être qu'il s'use quand on s'en sert aussi un peu trop. C'est sans doute le cas qui se produit aujourd'hui. Françoise Lavocat, on vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table.
Le débat est relancé sur les hautes rémunérations, comme à chaque fois qu'est annoncée l'augmentation du salaire d'un grand patron.
L'Assemblée Générale de Renault avait voté vendredi à 54% contre la rémunération de 7,2 millions d'euros de Carlos Ghosn pour 2015. Le conseil d'administration l'a toutefois confirmé juste après. Alors hier, Emmanuel Macron menaçait de légiférer sur la rémunération des grands patrons si le groupe ne retirait pas ou ne tirait pas les conséquences du vote négatif des actionnaires sur cette rémunération du patron. Ce matin, le président du groupe socialiste Bruno Le Roux soutient que M. Ghosn doit renoncer donc de lui-même à sa rémunération. 10 millions, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ceux qui travaillent, dit M. Le Roux, dans les usines, par rapport à la vie quotidienne? Est-ce qu'on vit mieux, en fait, avec, qu'on fait plus de choses avec 10 millions qu'avec 5 ou 6 millions? Je crois qu'on est là dans des montants qui ne veulent plus rien dire et qui sont choquants. Bonjour Élise Thibault.
Bonjour Antoine.
Alors le ministre menace donc de légiférer. Quels sont les moyens d'action du gouvernement?
Et le gouvernement pourrait en effet faire une loi pour plafonner la rémunération des grands patrons ou pour donner à l'Assemblée Générale des actionnaires un vote contraignant. Chez Renault, 54% des actionnaires, vous l'avez dit, dont l'État s'est opposé vendredi à ces 7 millions d'euros de salaire pour Carlos Ghosn. Mais comme ce vote n'est aujourd'hui que consultatif, le conseil d'administration a finalement validé dans l'heure qui a suivi ce montant. Alors oui, le gouvernement pourrait légiférer, encore faudrait-il qu'il le veuille. En 2013, Pierre Moscovici avait abandonné son projet de loi dans ce sens en échange d'un code de bonne conduite écrit par le MEDEF. Et c'est le scénario qui pourrait bien se reproduire cette fois. Le gouvernement tape du poing sur la table, puis laisse la main au patronat qui n'a sûrement pas intérêt à ce qu'une loi soit votée. Le haut comité AFEP-MEDEF s'est déjà auto-saisi de cette affaire Renault pour trouver un compromis, comme il l'avait fait dans le scandale de la retraite de Philippe Varin à PSA et plusieurs autres affaires. Le coup de colère d'Emmanuel Macron ressemble donc à une posture, les actes, eux, parlent différemment, puisque l'État avait déjà trouvé un arrangement avec le conseil d'administration de Renault et renoncé à son vote double sur toutes les questions liées à la rémunération des dirigeants. Avant même d'avoir commencé la bataille, Bercy l'avait en fait déjà abandonné. On notera aussi que si la rémunération de Carlos Ghosn est si importante, c'est qu'il est payé en grande partie en actions, des actions qui sont devenues intéressantes car largement défiscalisées par la loi Macron promulguée en août dernier.
Élise Thibault, merci. Alors effectivement, ce genre d'affaires revient régulièrement sur le devant de l'actualité. Ce qui se passe pour le PDG de Renault s'était produit dans la plupart des grands groupes, d'où la question à leur choix de savoir ce qui pousse irrésistiblement les salaires des patrons à la hausse.
Alors, plusieurs chercheurs se sont penchés sur le cas de ces patrons ultra riches qui gagnent plus d'argent, effectivement, qu'ils ne pourront manifestement en dépenser. Outre des phénomènes assez classiques, dirons-nous, liés à la psychohistoire de la représentation de l'argent dans nos sociétés, pour faire court, la réussite est une valeur et l'argent son étalon. Outre également tous les ressorts inconscients de l'accumulation de richesses, peur du manque lié à l'enfance, etc. Il existe aussi une raison analysée, notamment par le chercheur spécialiste des élites économiques, Hervé Joly, qui met en parallèle, les grands patrons et les grands sportifs. Les salaires de ces derniers sont fonction d'un seul principe, l'offre et la demande. Les joueurs les mieux payés sont les meilleurs et de ce fait, très courtisés. Dans l'entreprise, en revanche, d'abord, il est difficile d'attribuer les résultats d'un groupe à la seule performance de son dirigeant, parce que ce dernier travaille avec son comité exécutif, ses cadres dirigeants et ses milliers de collaborateurs. Sans doute, ce dirigeant possède-t-il une capacité exceptionnelle à exploiter les bons réseaux et à se faire remarquer, mais pas non plus au point que le monde entier se l'arrache. L'explication de ces rémunérations délirantes réside plutôt, selon Hervé Joly, dans le fait que les dirigeants d'entreprise sont en situation de fixer eux-mêmes leur propre salaire à leur arrivée et surtout après leur départ. Et ce ne sont pas les conseils d'administration, composés le plus souvent d'amis ou d'invités de la direction, qui sont en mesure de s'y opposer. Au contraire, ils en profitent le plus souvent. Tout se joue donc en jeu fermé. Ces salaires et autres parachutes dorés tiennent bien plus de l'arrangement entre amis que de la récompense d'un talent ou d'une prise de risque. Tant que la gouvernance de ces grands groupes ne sera pas complètement revue, cela risque de continuer.
Anne-Laure Chouin.
Dans le nord-est de Paris, les forces de l'ordre ont investi ce matin un lycée en travaux pour évacuer les migrants qui l'occupent depuis près de 2 semaines.
La police a employé du gaz lacrymogène pour disperser plusieurs dizaines de manifestants qui avaient formé une chaîne humaine afin d'empêcher donc l'accès, l'entrée de ce lycée Jean Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris. Une partie des migrants venait du campement sauvage situé sous le métro aérien de la station Stalingrad qui a été à nouveau démantelé, c'était avant-hier lundi. Donc les migrants qui étaient réfugiés dans ce lycée ont été ensuite évacués par bus. Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous avez assisté ce matin à l'ensemble de ce processus d'évacuation.
Une expulsion sous très haute surveillance policière avec une douzaine de cars de CRS et de gendarmes arrivés dès l'aube pour déloger les manifestants. Ils avaient constitué une chaîne de solidarité aux deux entrées du lycée Jean Jaurès. Claudio, un riverain, fait partie des 200 personnes venues soutenir les migrants, un trentenaire impliqué dans Nuit Debout et d'autres collectifs.
Il y a 3 assemblées dans le quartier où on essaie de discuter contre la loi travail, contre les choses qui passent dans le quartier, mais ça c'est une action concrète où on a fédéré tout le monde. C'est un scandale que les lycées aient vide depuis 5 ans. Nous on trouve que c'est important d'utiliser les lieux publics comme ça et de ne pas laisser les gens crever et mourir dans la rue. C'est des enfants, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des familles. Il y a 300-350 personnes qui sont ici dans les lycées. Donc je pense que c'est le minimum de défendre les gens.
Des manifestants qui ont été éloignés du lycée par des gaz lacrymogènes, qu'importe, ils sont restés jusqu'au départ des bus qui ont finalement emmené près de 300 migrants, des hommes, des femmes et des enfants, originaires pour la plupart du Soudan, une partie d'Érythrée et quelques Syriens. Un contact à l'intérieur du lycée a dénoncé une violence policière. Les migrants, ballottés de campements dans la rue à des centres d'hébergement d'urgence pour quelques nuits, ne voulaient pas partir vers une nouvelle destination inconnue. Karim, un centrafricain arrivé en France il y a moins d'un an, aurait pu faire partie des personnes expulsées. Il a passé quelques nuits dans le lycée Jean Jaurès, mais a préféré partir avant l'évacuation policière.
Moi, comme je ne vais pas avoir les problèmes avec la police, c'est pour ça que moi, je me suis retiré, pour ne pas avoir les problèmes dans mes casiers judiciaires. Je ne sais pas comment je vais faire. On est là parce que moi, je n'ai plus personne dans ma vie. Et tous ces gens qui me soutenaient, comme mon papa, ma maman, nos maisons ont été saccagées, détruites. À cause des anti-balaka, c'est tout ce qu'on demande, c'est pour se les danser, laver, commencer une autre vie dans ce pays où il y a la paix et tout.
En ce moment, 74 personnes, dont 20 femmes et 6 enfants, sont conduits vers un centre d'hébergement, on ne sait pas où précisément. Les autres, 200 environ, attendent un examen de leur situation administrative. C'est ce qu'indique la préfecture de police. Tous ceux qui n'ont pas fait de demande d'asile en France pourraient aller en centre de rétention et risquent donc d'être expulsés. Un dernier mot encore de cette évacuation, 4 gendarmes ont été légèrement blessés ce matin.
Catherine Dutu, merci. La séquence interview maintenant, notre invitée Françoise Verchère qui est en direct des studios de France Bleu Loire-Océan à Nantes. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes donc présidente du comité des élus contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez publié un livre intitulé « Notre-Dame-des-Landes, la fabrication d'un mensonge d'État ». Et c'est Véronique Reverotte qui vous pose la première question.
Bonjour Françoise Verchère. Dans votre livre, vous décortiquez les procédures en fait du débat public et la lueur de ce dossier Notre-Dame-des-Landes, la démocratie participative, une consultation orchestrée de bout en bout par l'État. Et vous la qualifiez, cette parole donnée au public, de leurre, de manipulation de bout en bout, puisque notamment il n'y a pas la possibilité de contre-expertise indépendante, où elle est balayée, vous l'expliquez aussi, d'un revers de la main par l'État. Le citoyen, en fait, est piégé depuis le début dans ce que vous appelez cette démocratie Canada Dry.
Oui, c'est en tout cas le sentiment que j'ai après avoir analysé non seulement le cas de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi le cas de bien d'autres grands projets ou moyens projets d'investissement qui montrent tous les mêmes défauts, c'est-à-dire des défauts qui servent le pouvoir comme si la démocratie participative était purement formelle et servait de caution à des décisions que l'on ne peut pas faire bouger au bout du compte. Et je peux donner quelques exemples qui n'ont rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes, mais par exemple, la commission d'enquête publique a émis un avis défavorable à la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, ce qui est déjà assez rare. Les commissions d'enquête publique sont souvent très favorables au projet. Et bien, malgré l'avis négatif, le gouvernement poursuit ce projet de ligne grande vitesse. Et c'est assez amusant le rapport avec l'actualité, puisque tout à l'heure, Monsieur Macron avait l'air très choqué que le conseil d'administration de Renault valide la rémunération de Carlos Ghosn après un avis négatif des actionnaires, mais c'est exactement ce qu'il se passe dans les commissions.
Pour quelle raison, selon vous, pour quelle raison, selon vous ? Qu'est-ce qui explique qu'on va toujours de l'avant comme ça ?
Eh bien, parce que je crois fondamentalement que le pouvoir ne se partage pas. Et c'est le grand problème du pouvoir. C'est-à-dire que l'on donne des apparences de démocratie, on questionne les habitants, ils peuvent faire des modifications à la marge. Autrement dit, sur la couleur de la peinture, mais pas sur le bâtiment lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est ça qui fait que le jeu est perverti, parce que tous les mots sont utilisés, démocratie participative, transparence, objectivité, contre-expertise, mais en réalité, rien ne change. La décision fondamentale a été prise en amont et on la retrouve à peu près à l'identique à l'aval des processus dits démocratiques.
Sauf que pour Notre-Dame-des-Landes, il va quand même y avoir un référendum le 26 juin prochain.
Justement, parlons-en. Parlons-en, si vous voulez.
Est-ce que là, ce n'est pas une manière de retrouver la démocratie quand même, malgré tout, même si on peut contester le périmètre ou la question ?
Alors, vous avez raison d'ailleurs de parler de la question posée, puisque ça n'est pas le choix entre deux possibilités, alors que le rapport remis par les experts à Ségolène Royal montre bien qu'il y a en réalité deux possibilités. Optimiser l'actuel aéroport ou en construire un qui, à Notre-Dame-des-Landes, qui ne serait même pas celui qui a été présenté à l'enquête d'utilité publique, puisque les inspecteurs jugent que c'est disproportionné et trop grand en termes de gaspillage d'espace. Alors passons sur les questions de périmètre et de questions posées, mais vous voyez dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes, qui est devenu d'une grande complexité parce qu'il est mensonger depuis le début et parce que les procédures ont été détournées de leur sens fondamental, on ne règle pas un problème qui est devenu celui-là par une question oui ou non. C'est-à-dire que là, on n'a pas bien fait fonctionner le processus démocratique en amont et finalement on veut redonner une espèce de caution démocratique en aval sans avoir reposé les choses calmement. Et je crois que ça n'est pas comme cela que l'on doit faire effectivement fonctionner la démocratie continue à laquelle nous aspirons tous.
Véronique Reverotte.
Françoise Verchère, vous évoquez aussi dans votre livre la difficulté, l'impossibilité même pour des élus de faire marche arrière sur un dossier une fois que la machine est lancée. C'est le cas à Notre-Dame-des-Landes.
Oui. Alors oui, je crois que c'est intéressant. Je n'ai pas une seule explication à cette impossibilité quasi de faire machine arrière, mais il y en a probablement plusieurs. Il y en a d'ordre psychologique. Les psychosociologues expliquent très bien que une fois que l'on est engagé dans un chemin, quelles que soient les raisons qui devraient nous faire cesser, eh bien nous avons tous tendance à persévérer dans l'erreur, en quelque sorte. Donc il y a probablement cet élément-là. Il y a aussi, en tout cas c'est mon analyse, peut-être de la part des politiques qui nous gouvernent et qui, comme vous le savez, sont majoritairement des hommes d'un certain âge, une sorte de refus de la mort et refus de la limite. Refus de la limite par rapport à notre espace, c'est-à-dire nous n'avons qu'une planète et qu'un seul espace et il va bien falloir arrêter de bâtir et de construire à un moment ou à un autre, en tout cas pas en détruisant en permanence. Et j'ai l'impression qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire. Et puis je crois surtout qu'il y a peut-être aussi des intérêts qui nous échappent, en tout cas à nous simples citoyens, des intérêts financiers, des intérêts immobiliers qui font tourner la machine à construire ici une autoroute, ici une ligne à grande vitesse, ici un nouvel aéroport. Et au plus haut sommet de l'État, on le sait bien, il y a une porosité entre le monde politique et le monde des affaires qui explique probablement tout cela. Et puis vous rajoutez enfin le fait qu'on ne parle plus de Notre-Dame-des-Landes, excusez-moi, sur le fond du projet, mais sur les rapports à cause de Notre-Dame-des-Landes, les rapports entre les politiques, les jeux d'autorité ou pas face à la ZAD, etc. etc. Et on est dans une situation quasi inextricable.
Et on renvoie à votre livre Notre-Dame-des-Landes, la fabrication d'un mensonge d'État. Merci beaucoup Françoise Verchère d'avoir été en ligne avec nous. Un temps ensoleillé et doux aujourd'hui, 15 à 24 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, 18h, Anne Fauquemberg.